Bonsoir et bienvenidos sur Semillas Latinas, l'émission qui vous emmène en Amérique latine et dans les Caraïbes pour décrypter les réalités contemporaines de la région.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Ce soir, c'est Paloma et Annaëlle à la présentation et cet épisode est consacré à un sujet complexe et passionnant, la religion, ou plus exactement, les religions.
Mais avant de commencer, on vous propose un aperçu de l'actualité avec une revue de presse collective du mois qui s'est écoulé. Et on commence ce tour d'horizon au Chili. Le président d'extrême droite, José Antonio Kast, suspend la régularisation de 182 000 personnes migrantes, régularisation prévue par l'administration de son prédécesseur de gauche, Gabriel Boric.
Tout à fait. José Antonio Kast a pris la présidence du Chili en mars dernier avec la promesse d'opposer une main de fer à l'immigration irrégulière qu'il juge coupable de l'augmentation de la criminalité. Ce fils de nazi et admirateur de Donald Trump a également annoncé la construction d'une barrière dans le nord du pays, à la frontière avec le Pérou, pour empêcher l'entrée de personnes migrantes. Le gouvernement prévoit en outre d'adresser au Parlement deux projets de loi destinés à freiner la migration, dont l'un sanctionnerait les individus aidant les personnes migrantes à entrer irrégulièrement au Chili, et l'autre érigerait en délit l'entrée illégale sur le territoire. De nouveau, le sentiment d'insécurité, très présent parmi la population chilienne, est instrumentalisé pour renforcer le pouvoir présidentiel et bafouer les droits humains.
Et au Pérou, qui traverse une crise politique sans précédent, les électeurs et électrices s'apprêtent à voter le 12 avril à l'occasion de l'élection présidentielle.
Et en une décennie, le pays andin a connu 8 chefs de l'État différents. Le dernier président à avoir été élu est Pedro Castillo, destitué en décembre 2022. 35 candidates et candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel et plus de 10 000 pour les postes de sénatrices et de députés. Le Pérou est revenu à un système législatif bicaméral qui avait été aboli pendant 3 décennies. Le thème de la sécurité occupe une place importante dans cette campagne. Les extorsions se multiplient, le taux d'homicide a atteint son niveau le plus haut en 2025. Dans ce contexte de flou préélectoral, deux candidats de droite sont annoncés favoris par les sondages. L'ultra-conservateur d'extrême droite Rafael López Aliaga, maire sortant de Lima et entrepreneur millionnaire, fidèle de l'Opus Dei, propose un tour de vie sécuritaire et loue la politique d'incarcération massive mise en place par le président salvadorien Nayib Bukele, accusé de violation de droits humains et d'atteinte à l'état de droit. En deuxième position dans les sondages, Keiko Fujimori, fille de l'ex-président Alberto Fujimori, condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Celle qui défend le bilan de son père tient également un discours très sécuritaire et s'oppose notamment à la légalisation de l'avortement. Ça promet.
Et 50 ans après le coup d'état militaire mené par Videla, l'Argentine réaffirme l'importance de la mémoire de la dictature et de la quête de justice et de vérité face à un gouvernement négationniste.
Chaque année, le 24 mars, l'Argentine commémore le coup d'État de 1976 qui a instauré une dictature militaire brutale causant la disparition de 30 000 personnes. 300 bébés ont également été volés à des détenus puis donnés à des familles proches de la junte et les recherches pour leur identification se poursuivent. Et pourtant, depuis son élection fin 2023, le président d'extrême droite, Javier Milei, tente d'atténuer et de relativiser la gravité des faits, contestant le bilan établi par des organisations de défense des droits humains. Dans ce contexte, des dizaines de milliers d'Argentins et d'Argentines sont descendus dans la rue pour affirmer leur volonté de s'opposer à l'oubli et à l'affaiblissement de l'esprit critique et afficher leur soutien à celles et ceux qui poursuivent sans relâche la recherche des disparus. La commémoration du cinquantenaire du coup d'État vient donc raviver l'enjeu crucial de la défense des politiques mémorielles.
Et d'ailleurs, de notre côté de l'océan Atlantique, la récente nomination de Santiago Mucio, figure ultra-conservatrice désignée par Javier Milei à la tête de la Maison de l'Argentine à la Cité universitaire de Paris, s'est accompagnée du retrait de la plaque commémorative qui rendait hommage aux victimes de la dictature.
Exactement, et face à ce scandale, l'Assemblée des citoyens argentins en France, l'Observatoire de l'Argentine contemporaine et le collectif Argentina en Lucha Paris ont organisé un rassemblement unitaire à proximité de l'ambassade d'Argentine et ces associations ont rendu hommage aux disparus de la dictature tout en dénonçant les politiques négationnistes mais aussi ultralibérales du gouvernement argentin.
Pour terminer, la flottille Nuestra America arrive à Cuba pour tenter de contrecarrer l'embargo américain qui laisse l'île s'éteindre à petit feu.
Et oui, Cuba traverse une crise énergétique et humanitaire sans précédent en raison de l'embargo pétrolier imposé par les États-Unis. Trump a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays qui lui fournirait du pétrole. L'approvisionnement en carburant de Cuba s'est depuis effondré, ce qui a conduit à des coupures générales d'électricité. Par conséquent, les hôpitaux n'ont pas assez d'énergie pour fonctionner. Des interventions chirurgicales sont annulées et des personnes sont refusées à l'entrée même des hôpitaux. La résistance anti-impérialiste s'organise, comme en témoigne l'arrivée d'un bateau humanitaire à Cuba le 24 mars dernier avec des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des panneaux solaires. Deux autres bateaux devraient suivre.
Et tout de suite, place à l'édito autour d'un sacré sujet, celui des religions en Amérique latine. Alors, outre le fait qu'on est en pleine période de Pâques et de Pessah et que le Ramadan s'est terminé il y a quelques semaines, pourquoi un tel choix de thématique ?
Eh bien, parce que les religions structurent des communautés et influencent parfois de manière décisive les dynamiques politiques et sociales du continent.
Tout à fait. Les religions sont omniprésentes. Des sphères les plus intimes de l'existence jusqu'à l'espace public et médiatique le plus visible, voire tapageur, c'est un repère pour une part importante de la population et une clé de compréhension des tensions, débats et recompositions politiques actuelles.
Mais avant de se concentrer sur l'actualité, un petit récap historique s'impose. En Amérique latine, le catholicisme, une religion longtemps hégémonique, s'enracine dans la colonisation espagnole et portugaise et l'évangélisation des populations autochtones et des esclaves africains était inscrite au cœur de ce projet colonial lui-même. Le catholicisme et son clergé ont donc constitué un pilier et un ciment du système colonial.
À partir des indépendances des États-nations latino-américains au XIXe siècle, l'influence de l'Église catholique est contestée par les régimes libéraux émergents, qui cherchent à encadrer et réduire son pouvoir en promulguant des lois allant dans le sens de la laïcisation, voire franchement anticléricales, comme au Mexique et en Colombie.
Mais pendant longtemps, ça n'a pas vraiment remis en question l'hégémonie du catholicisme et l'Église catholique a continué d'exercer une influence très importante sur les sociétés, notamment grâce à ses relations privilégiées avec les États et aussi grâce au relais de partis chrétiens-démocrates.
Cependant, en quelques générations, cette position dominante s'est érodée. Tout d'abord, du fait d'une dynamique globale qu'on appelle sécularisation. La sécularisation, c'est la baisse progressive de l'autorité et de l'influence de la religion dans toutes les sphères de la société. Mais aussi, comme le souligne Blandine Chellini-Pont, certains mouvements religieux ont promu des formes concurrentes de religiosité, davantage émotionnelles et expressives que la liturgie catholique.
Et pour comprendre ce phénomène de pluralisation religieuse, il faut remonter aux années 50, qui ont été marquées par un exode rural massif. Cet exode va affaiblir les repères traditionnels des populations qui vont s'ouvrir à de nouvelles pratiques religieuses. On assiste à ce qu'on appelle une libéralisation de l'adhésion, c'est-à-dire que la foi ne s'hérite plus nécessairement par la famille, elle se choisit.
Et puis dans les années 60, le catholicisme est aussi fragilisé par des tensions entre des courants progressistes et d'autres courants conservateurs, notamment autour de la question sociale. Affaibli par sa propre lourdeur administrative et n'ayant ni anticipé ni suffisamment répondu aux mutations sociales, économiques et culturelles en cours, l'Église est ensuite bousculée par l'essor de mouvements évangéliques et pentecôtistes très prosélytes, en particulier au Guatemala et au Brésil.
Ces courants, ils sont marqués à la fois par l'importance du choix personnel, de la relation individuelle avec Dieu, mais aussi par la présence de dirigeants qui sont très charismatiques et qui vont vraiment encadrer des communautés. Et les organisations religieuses commencent à jouer un rôle de protection sociale, de solidarité et de soutien communautaire, notamment dans des contextes de précarité.
Elles ont donc une dimension politique évidente. Et on voit se multiplier les organisations et associations religieuses qui défendent des intérêts corporatistes et qui pratiquent même le clientélisme.
Elles vont négocier avec le champ politique qui cherche à s'attirer le vote évangélique contre des avantages fonciers ou fiscaux pour la construction de temples et même des privilèges en matière d'accès aux médias télévisuels et radiophoniques.
Et c'est à la fin des années 80, lors de la transition démocratique en Amérique latine, que voient le jour les premiers partis politiques évangéliques. Des leaders religieux s'investissent directement en politique et on assiste alors à l'accession de présidents et vice-présidents pentecôtistes au pouvoir comme au Pérou en 1990 ou au Guatemala en 1991. Dans les assemblées parlementaires, le vote pentecôtiste se traduit aussi par des stratégies de lobbying.
Ces 30 dernières années, cette diversification religieuse de l'Amérique latine s'est considérablement accélérée avec le protestantisme, des sectes chrétiennes et non chrétiennes, mais aussi avec un renouveau de religions traditionnelles et avec l'émergence récente de l'islam dans certaines grandes villes. Tout ça va transformer rapidement le paysage religieux alors même que le continent reste majoritairement catholique.
Alors ce soir, avec toute l'équipe de Semillas Latinas, on va tenter de déchiffrer les évolutions récentes de la place des religions en Amérique latine en se demandant comment et à quelle fin de nouvelles formes de spiritualité ont conquis du terrain. Pour recomposer ce puzzle, nous aurons le plaisir de recevoir Ana Carla Rocha de Oliveira, docteur en anthropologie, spécialiste de l'évangélisme pentecôtiste au Brésil.
Ensuite, avec Manon, on vous emmènera dans les Terreiros, où se déroulent les cultes afro-brésiliens du Candomblé.
Et puis on s'intéressera aux intrications de la religion et de la politique en Amérique latine avec Sylvie, qui nous propose une chronique sur la théologie de la libération, un courant de pensée chrétien qui mettait au centre de la foi l'engagement en faveur des pauvres et des opprimés.
Et enfin, Anaëlle, tu clôtureras l'épisode par une chronique sur le phénomène non seulement religieux, mais aussi culturel, politique et économique de la néo-indianité, un revival des cultes et traditions d'époque précoloniale qui interroge dans un contexte de tourisme de masse.
Mais avant d'entamer ce riche programme, on écoute un morceau du chanteur et auteur-compositeur Tim Maia, Bom Senso, enregistré dans une phase de sa vie marquée par une forte quête spirituelle.
Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda.
O livro Universo em Desencanto.
Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi
na rua. Mas lendo atingir o bom senso. Mas lendo atingir o bom senso. A imunização racional.
Et on reste au Brésil parce qu'on accueille Manon et son invitée, l'anthropologue Ana Carla Rocha da Oliveira, spécialiste des phénomènes religieux au Brésil.
Nós, povo de Deus, entendemos liberdade, liberdade, liberdade.
Le pentecôtisme est un mouvement chrétien évangélique lancé par des pasteurs américains au début du XXe siècle dans les banlieues de Los Angeles. Il est une expression populaire du protestantisme. Il connaît depuis quelques décennies un succès immense sur le continent sud-américain, à tel point qu'après 5 siècles de monopole catholique, ces derniers voient cette nouvelle offre religieuse leur grignoter leur influence. Le nombre de fidèles pentecôtistes n'a fait que croître jusqu'à encore récemment, et depuis quelques années, son influence s'exerce même sur le terrain politique, pesant d'une force plutôt bien conservatrice sur les débats de société, aussi bien en Colombie qu'au Brésil, dans une dynamique concomitante au backlash réactionnaire d'extrême droite. Pour comprendre un peu mieux les dynamiques socio-historiques et politiques de ces églises, de leurs pasteurs et de leurs fidèles, je vous emmène dans le plus grand pays catholique du monde, mais aussi le pays où sème le plus de fidèles pentecôtistes en Amérique latine, le Brésil. Et je vous propose d'accueillir Ana Carla Rocha da Oliveira, docteur en anthropologie sociale et autrice d'une enquête ethnographique sur le pentecôtisme au Brésil, réalisée entre 2015 et 2016 dans la métropole de Recife. Ana Carla, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonjour Manon, merci beaucoup de l'invitation.
Pour commencer, au Brésil, on comptait environ donc 5% d'évangélistes dans les années 70 et aujourd'hui, on en compte à peu près 30%. À partir de quand les églises pentecôtistes commencent à se développer et quelles sont les raisons de cette vague pentecôtiste? Et en fait, qu'est-ce que l'évangélisme propose de plus ou de différent qui aille dans le sens de la société contemporaine, peut-être par rapport au catholicisme?
Effectivement, les églises évangéliques sont arrivées avec les premiers missionnaires, en tout cas évangéliques pentecôtistes, hein, et je précise bien pour les pentecôtistes avec les missionnaires au début du XXe siècle. Donc c'est vrai que ça fait déjà plus d'un siècle qu'elles sont arrivées sur le territoire, et avant eux sont arrivés des missionnaires protestants, mais là c'était plus au XIXe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle notamment. Ce sont des missionnaires qui arrivent sur un territoire qui vont essayer d'investir, de faire, comme ils le disent, diffuser la parole de Dieu, de prêcher cette parole, notamment dans l'espace public. Dans le cas, je précise toujours, des évangéliques pentecôtistes, parce que c'est vrai que c'est un mouvement qui a plusieurs ramifications.
Bien sûr.
Et donc, quand ces missionnaires arrivent au début du XXe siècle, ils arrivent par le nord du Brésil et aussi par le sud-est du Brésil. Et donc, ils essayent d'amener cette parole nouvelle. Et puis, petit à petit, ils arrivent à regrouper des personnes autour d'eux jusqu'à s'établir et édifier leur première église. Et très rapidement, ce mouvement, il va croître de manière exponentielle et en même temps avec ce même principe d'arriver sur un territoire pour prêcher la parole, notamment dans l'espace public, regrouper un certain nombre de personnes autour de cette personne qui prêche et ensuite s'approprier un lieu où on peut continuer et inviter d'autres personnes à venir jusqu'au moment où cette assemblée de personnes réunies va fonder une église. Et donc ça, c'est une méthode de base des évangéliques, en tout cas de ce que j'ai pu étudier dans mon terrain, et notamment en prenant vraiment l'exemple de l'Assemblée de Dieu, qui est une église très historique chez les pentecôtistes, parce qu'elle est vraiment fondatrice de ce mouvement au Brésil. Cette nouvelle religion, en tout cas cette nouvelle promesse de foi, de pratiquer sa foi différemment et de manière totalement tournée vers Jésus qui est le sauveur.
Et alors justement, comment on explique qu'il y a une telle adhésion pour le pentecôtisme et qu'est-ce qui était différent par rapport à ce que proposaient les catholiques qui a fait qu'il y a une telle transition?
Il y a cette dimension un peu sociale, on va dire, parce que ces missionnaires, ils vont au contact des personnes. Et donc, comme ils avaient l'habitude justement d'être dans l'espace public, notamment dans les places, dans des lieux de passage, dans des lieux où ils savaient qu'ils pouvaient toucher les personnes, toucher un mot, échanger, parler, prêcher. Donc voilà, il y a cette dimension sociale, cette approche en fait, très proche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas comme quand on va à l'église catholique, le prêtre est l'intermédiaire entre le fidèle et l'image de Dieu. Et chez les évangéliques, on n'a pas besoin d'un intermédiaire, on peut parler à Dieu au moment où on veut et là où on se trouve. Donc les personnes qui vont prêcher cette parole de manière très volontaire, très investie, très militante, vont toucher des personnes qui vont se dire oh, « Tiens, finalement, n'importe qui peut parler à Dieu parce qu'il va m'écouter, il va nous écouter. » Ce qui est très paradoxal, hein, parce que finalement, le pasteur est quand même un intermédiaire. Mais il y a quand même cette dimension de libre expression et libre communication. Il y a une dimension économique aussi, parce que souvent, ces pasteurs et ces missionnaires, ils vont diriger les discours vers les personnes les plus démunies. On va essayer de cibler quand même un public qui se trouve un petit peu dans les marges, qui se trouve un peu dans la difficulté, qui sont un peu les oubliés, on va dire, entre guillemets, de la société et du système. Et donc là, on va voir tout un tas de discours justement de non seulement Dieu peut sauver, mais il peut guérir, mais il peut aussi vous aider à prospérer, il peut vous aider à résoudre tous vos problèmes. Et donc c'est vrai que ce discours-là, il est très séduisant dans le sens où effectivement, si je me retrouve avec pas mal de problèmes et que je n'arrive pas à les résoudre et que j'ai trouve un lieu et des personnes qui m'écoutent et qui vont m'intégrer dans ce lieu, qui vont me soutenir dans la recherche des solutions à mes problèmes, et bah, ça répond à ces besoins-là.
Oui, bien sûr. Et à la différence aussi de l'Église catholique qui prône peut-être un peu plus de sobriété, je crois que les pentecôtistes, il me semble, développent aussi une théologie de la prospérité et donc du fait que c'est bien et c'est possible de s'enrichir matériellement et ils vont aussi aider les populations à ça.
Effectivement, parce que l'idée de la théologie de la prospérité, c'est je donne pour recevoir au retour. Si je donne non seulement ma foi, ma fidélité, mon temps, mon investissement, mais aussi matériellement, je contribue à l'œuvre de Dieu. Il y a ce volet-là, il y a cette partie-là, mais il y a aussi le fait de, effectivement, chez les protestants, le travail occupe une place très importante. Les pentecôtistes, ils vont mettre en avant l'argent comme le gain de ce travail qui va permettre de vivre le paradis sur terre, c'est-à-dire d'avoir une vie confortable, d'avoir une vie dans l'abondance, parce que c'est ça que Dieu veut pour ses fidèles, finalement.
Et il me semble d'ailleurs que les fidèles doivent justement reverser 10% de leur salaire à l'Église dans cette idée justement de donner matériellement pour recevoir.
Alors, en fonction des églises, ça peut être même plus que 10% des richesses matérielles dont je dispose, qui sont basées forcément sur mes revenus, sur le revenu du foyer, mais aussi peut-être sur la possession des biens, pour pouvoir rentrer dans ce système de don contre don. Alors là, je vais rentrer dans cette fameuse théorie de Marcel Mauss, mais effectivement, à partir du moment que j'intègre une église, et notamment une église pentecôtiste telle que l'église universelle du royaume de Dieu, je dois donner pour pouvoir recevoir, parce qu'elle, c'est sa base doctrinaire. Donc là aussi, il faut pouvoir identifier dans cette ramification des églises celles qui pratiquent la théorie de la prospérité et celles qui ne la pratiquent pas ou la pratiquent moins ou la pratiquent d'une autre manière.
Et en parlant de recevoir, du coup, donc les pentecôtistes, ils sont assez connus pour distribuer des aides financières, mais aussi des paniers repas, des vêtements, aider à l'alphabétisation par la Bible, créer des groupes de soutien pour sortir de la drogue ou de l'alcoolisme. Et on a du coup beaucoup entendu dire qu'elles prospéraient, notamment là où l'État avait un peu failli dans ses missions. Toi, dans ta thèse, tu dis plutôt que leur rôle est assez justement complémentaire en fait et presque collaboratif depuis le début. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur notamment les partenariats publics-privés que l'État a conclus avec les églises pentecôtistes?
Oui, parce qu'effectivement, on a des politiques publiques pourtant. Hein. L'État n'est pas absent au Brésil. Il est défaillant dans certaines politiques publiques qu'il a mis en place et qui n'arrivent pas à répondre aux besoins et aux demandes d'une population toujours grandissante et assez considérable. Et notamment, les plus pauvres, ce sont ceux qui en pâtissent le plus. C'est vrai qu'il y a une sorte de partenariat, je dirais, d'une certaine manière. Ces églises-là fonctionnent aussi comme une certaine niche électorale. Et donc, il y a tout intérêt pour des élus locaux, voire même nationaux, de se rapprocher de ces églises, étant donné qu'elles embrassent du monde. Il y a des églises qui ressemblent quasiment à un stade de football, quoi, parce qu'il y a plus de 4 000, 5 000, 10 000 personnes lors des événements qui rassemblent. Les églises investissent des domaines sociaux là où l'État ne peut pas couvrir de manière globale. Bien sûr que ça intéresse à l'État, à les élus locaux, de maintenir ce travail social des églises dans les quartiers ou dans certains secteurs, dans les villes où ils sont actifs aussi pour pouvoir distribuer des soupes, pour pouvoir distribuer à manger, des vêtements, entre autres. Il y a cette sorte de partenariat-là entre les deux. On ne peut pas les dissocier, et y compris au moment des élections. Il est très courant de voir des élus locaux qui viennent dans les églises pour se présenter, pour demander qu'on vote pour eux.
C'est-à-dire qu'ils sont en même temps un maillon vital du travail social et en même temps, en effet, ces partenariats leur permettent d'avoir une vraie influence politique. J'ai notamment vu qu'on parle même d'un lobby évangélique qui a réuni 215 élus sur 513 à la Chambre des députés. Est-ce que tu peux un peu revenir sur le poids de cette influence et comment ça se fait ? Parce que pour le coup, dans la constitution brésilienne, il y a une séparation de l'État et de la religion.
Alors, la laïcité existe au Brésil, hein, sauf qu'elle n'est pas aussi diffuse comme en France, où la laïcité, c'est un système qui est diffus dans toutes les institutions, y compris dans les instances d'éducation. Au Brésil, hélas, on n'a pas cette vision et cette manière de faire laïcité. Donc, l'État et le religieux, ils ont toujours plus ou moins œuvrer ensemble, plus ou moins collaborer ensemble, etc. Donc effectivement, les évangéliques ont un poids très important au niveau politique parce que depuis une bonne trentaine d'années, on voit des pasteurs, notamment, qui constituent ce qu'on appelle la bancada évangélique, donc cette représentation d'élus évangéliques qui sont issus des églises et différentes sortes d'églises, là, pour le coup. Alors, pourquoi ils sont arrivés là ? Parce qu'ils ont vu, là aussi, après la phase de dictature au Brésil, il y a une nouvelle phase de redémocratisation du pays. Et ils ont vu des hommes qui se disaient envoyés par Dieu pour occuper une place privilégiée qui permettait à la population d'avoir un homme droit, un homme de foi, un homme honnête. Et ce discours-là, il a perduré, il perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, en fait, qu'ils ont réussi à investir la Chambre des députés, mais aussi celle des élus locaux, mais aussi certaines mairies, voire même certains gouvernements locaux, hein, parce que le Brésil étant un pays d'État, les évangéliques sont arrivés jusqu'à ces postes-là, aujourd'hui. Aussi l'arrivée évangélique dans les masses médias, donc la télévision, la radio, qui ont joué un rôle incroyable, énorme, dans la promotion aussi de ces élus dans des postes assez stratégiques. Et maintenant, les réseaux sociaux, bien sûr, qui sont aussi là aussi investis pour qu'ils puissent communiquer, diffuser leurs projets, font campagne, et ils créent toute une communauté autour d'eux, et donc ils galvanisent pas mal de personnes.
Et la voix qu'ils portent, c'est du coup plutôt des valeurs assez conservatrices. Par exemple, pour l'élection de Jair Bolsonaro, l'élection a été assez influencée par les pentecôtistes, qui ont notamment fait circuler un certain nombre de fake news à l'encontre du parti de gauche des travailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas une nouveauté, parce que les valeurs conservatrices, ce sont celles des partis politiques conservateurs de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc, c'est-à-dire travail, patrie, famille. Et donc là, c'est un discours qui a été récupéré. Ces églises, elles ont un projet de société sur lequel elles s'appuient. à partir de ces valeurs conservatrices pour pouvoir diviser et faire perdurer cette vision dualiste que si on est de ce côté-là, du côté du bien, du côté de ces valeurs qu'on prône, on est sur le bon chemin. Et si on n'est pas dans ce cadre, dans ce projet de société prôné par certaines églises, on va créer une certaine diabolisation de l'autre. Et je dis bien certaines églises parce que toutes ne le prônent pas, bien qu'elles s'appuient sur ces valeurs, mais elles sont plus inclusives.
Oui, et leur projet de société dont vous parlez avec cette vision assez manichéenne et discriminante qui est portée par des valeurs conservatrices et des positionnements du coup anti-gay, anti-avortement, contre les études de genre, c'est autant d'éléments en fait qui font le lead de l'extrême droite conservatrice et populiste du Brésil, représenté notamment par Jair Bolsonaro qui, je le rappelle, du coup a été quand même baptisé dans les eaux du Jourdain par une figure influente des Assemblées de Dieu. Sa femme Michelle est une grande figure du pentecôtisme et il a nommé lors de son dernier mandat plusieurs ministres pentecôtistes ayant tenu des propos antidémocratiques. Et comme vous le rappeliez un peu plus tôt, en effet, si ces églises elles participent à un travail social vital, elles représentent aussi en fait une évolution qui me paraît assez naturelle dans nos sociétés capitalistes et d'économie ultralibérale en fonctionnant en fait comme des églises entreprises. En tout cas, merci Anna Carla de nous avoir apporté du coup ces clés de compréhension de ce mouvement religieux, de ce que sa croissance en termes de fidèles et d'influence veut dire dans nos sociétés et des enjeux politiques qu'il pose pour le Brésil contemporain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Manon pour l'invitation. Merci infiniment.
Et comme nous le disait notre invitée Anna Carla, les églises évangéliques gagnent du terrain et cela aux dépens d'autres religions et populations, parfois de manière très violente. Le ministère des droits humains brésilien confirme une hausse de 70% des attaques en un an et ce sont deux piliers de la culture afro-brésilienne qui sont visés, l'Ubanda et le Candomblé. Le Candomblé, c'est la religion qui a cherché à préserver au plus près les rites d'Afrique de l'Ouest, alors que l'Ubanda, elle, est une création plus récente, une synthèse brésilienne qui assume ses mélanges avec le catholicisme et le spiritisme.
Une chasse aux démons. Voilà comment les militants pentecôtistes ayant commis ces agressions justifient leurs actes. Pour ces derniers, les religions d'origine africaine voueraient en fait un culte au diable. Ils sont accusés de sorcellerie, de magie noire. On est en plein délire mystique.
Allez, viens, on va les rattraper.
Oh, mais c'est de la magie noire, je savais bien que t'étais une sorcière, j'aurais dû me méfier.
Mais alors, d'où ça vient ce cliché? Pourquoi cette étiquette de maléfique colle autant à la peau de ces religions?
Eh bien, c'est là qu'il faut qu'on démonte le mythe. Cette magie noire, c'est une pure construction coloniale. Historiquement, ces religions sont nées d'une ruse de guerre, le syncrétisme.
Le syncrétisme religieux. Derrière ce mot un peu savant, signifiant fusion de différents courants influences, il est en fait question de survie culturelle. Dès le XVIe siècle, les peuples Yoruba et Ewe, déportés du Nigeria, du Togo et du Bénin pour être esclavagisés en Amérique du Sud, se voient imposer de force un catholicisme par les colons européens, notamment portugais. Pour ne pas disparaître, ils vont alors berner l'autorité coloniale en adoptant quelques rites et notions chrétiennes pour pouvoir continuer de pratiquer leurs croyances originelles. C'est un travail de précision. On cache les orichas, leurs divinités, derrière des visages de saints pour rendre le culte plus catholique. Ils ont détourné donc les codes de l'oppresseur pour sauver leur tradition culturelle.
Et ça a très bien marché, ça a permis de préserver certains pans de l'identité africaine au Brésil, mais aussi en Uruguay, au Paraguay ou en Argentine. Et c'est la même racine qu'on retrouve avec la Santeria à Cuba, le vaudou en Haïti et en Louisiane, ou encore l'Obea dans les Caraïbes.
Le point commun de toutes ces traditions religieuses, c'est une divinité suprême, Olodumare, qui est accompagnée de tout un panthéon d'esprits, et c'est aussi la vénération des ancêtres. Et donc pour revenir à la magie noire, la fameuse, si dans la pop culture, les religions afro-américaines sont si souvent dépeintes comme maléfiques, ce n'est évidemment pas parce qu'elles le sont, après tout elles traitent du bien et du mal comme n'importe quelle autre religion, non, ce sont les prêtres missionnaires catholiques qui voulaient les faire disparaître pour asseoir une autorité totale. On a ainsi inventé ce caractère diabolique pour justifier la mission évangélisatrice occidentale qu'ils ont menée. On a donc décidé qu'elles étaient sombres en stigmatisant et surtout en caricaturant les rites de possession par les ancêtres ou des sacrifices d'animaux pour effrayer le public et légitimer leur annihilation.
Et cette obsession que l'on croyait terminée et old school, elle n'est pas morte. On la voit encore aujourd'hui avec l'Assemblée de Dieu qui s'enfonce en Amazonie pour évangéliser de force des tribus non contactées de l'immense terre indigène du Vale do Javari, une réserve brésilienne en Amazonie occidentale, grande comme l'Autriche.
Et ce n'est pas fini. En ville, la méthode est devenue carrément criminelle. Le journal Le Monde a publié une enquête glaçante sur le narco-pentecôtisme, qui est une alliance entre des gangs, comme le TCP, qui signifie le troisième commandement pur, et des pasteurs radicaux, et qui se voit un peu comme une armée de Dieu. Comme le souligne une source judiciaire citée dans l'article, persécuter les pratiquants de religion afro-brésilienne, c'est aussi une manière pour les trafiquants et les pasteurs d'assurer leur domination sur un quartier en expulsant toute autorité concurrente de leur territoire.
On ne parle donc plus de religion ici, mais de contrôle territorial par les armes. Et c'est le cas de Roberto, ce joueur de tambour de 24 ans à Rio, cité dans l'article. Il s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe à une barricade, juste parce qu'il portait un pantalon traditionnel de candomblé au motif africain. Les trafiquants lui ont hurlé « Le diable est en toi, si tu reviens habillé comme ça, tu vas souffrir » avant de l'expulser de sa favela.
À Rio, ce sont en effet plus de 200 lieux de culte qui ont ainsi fermé, notamment dans les quartiers périphériques où les évangélistes mènent une guerre de conquête terrible pour le soutien et pour l'argent de nouveaux fidèles. Le blanc, la couleur de la paix du candomblé, est devenue cible, tout comme la musique même de ces religions.
Or, dans le candomblé, la musique n'accompagne pas le culte, elle est le culte. C'est le langage pour appeler les esprits au son des atabaques, les percussions sacrées, les orichas viennent chevaucher les initiés. On est dans une connexion physique et une cérémonie extrêmement festive. Et malgré la terreur, ces cultes progressent. Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique, la part de l'Ubanda et du candomblé a triplé en 10 ans, passant de 0,32% à 1,05%, soit 1,8 million de pratiquants.
Heureusement, la gauche est encore un peu là. Comme le souligne Magali Cunha dans Le Monde, les politiques de quotas raciaux ou l'enseignement de l'histoire africaine ont permis d'assumer publiquement ces religions. Avant, il était difficile de dire qu'on pratiquait le candomblé.
Et aujourd'hui, même si le candomblé pur ne représente que 0,6% de la population répartie surtout à Rio, Recife, Bahia ou Maranao, il reste ce bastion de mémoire que les descendants d'esclavagisés continuent de transmettre coûte que coûte au rythme des tambours.
Merci Paloma et Manon pour cette chronique passionnante et on laisse désormais l'antenne à Sylvie qui va nous parler de la théologie de la libération, un courant de pensée né en Amérique latine qui revendique la concordance du message des évangiles avec la lutte pour la justice sociale.
La théologie de la libération est un mouvement social qui se développe en Amérique latine entre les années 50 et la fin des années 80 au sein du christianisme latino-américain. À cette période, la région est marquée par une pauvreté galopante sous la coupe des dictatures militaires qui écrasent par ailleurs les mouvements populaires. En parallèle, la révolution cubaine initie une étape d'effervescence révolutionnaire dans l'ensemble du sous-continent.
Et que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
S'appuyant sur une réinterprétation biblique, la théologie de la libération appelle à la valorisation des plus pauvres par le rejet du capitalisme. Lors de la conférence de Medellín de 1986, deuxième session du Conseil épiscopal latino-américain, un appel à la libération des peuples opprimés est lancé. Jésus s'installe dans les bidonvilles. Portés par la théologie de la libération, nombre de religieux refusent à leurs privilèges et décident de vivre auprès des plus pauvres.
Et ce courant de pensée a eu un impact fort sur nombre de mouvements révolutionnaires en Amérique, c'est bien ça ?
Eh bien oui, en Amérique, parler de théologie de la libération revient à engager un voyage révolutionnaire dans la région. Au Brésil, le courant a une influence sur la naissance des organisations paysannes à l'image du mouvement des travailleurs sans terre. Le MST est né dans le sud du Brésil en 1978 durant la dictature militaire. C'est constitué dans le but de démocratiser l'accès à la terre, son principal mode d'action étant l'occupation des terres non exploitées. Au sud du Mexique, au Chiapas, la théologie de la libération accompagne la formation de l'EZLN, l'armée zapatiste de libération nationale. Le zapatisme est un mouvement indigène qui est né en 1983 et qui a fait le choix de construire l'autonomie face aux dérives productivistes. Au Salvador, les religieux apôtres de la théologie de la libération rejoignent le Front Farabundo Martí de libération nationale durant la guerre civile salvadorienne qui a sévi de 1979 à 1992. Le conflit opposa le gouvernement, représenté par son armée, à la guérilla marxiste. Oscar Arnulfo Romero, martyr de la théologie de la libération, fut assassiné en 1980 à San Salvador alors qu'il célébrait la messe par un commandant d'extrême droite. Canonisé par le pape François, il reste une figure reconnue internationalement pour son engagement en faveur de la justice sociale. Le massacre des jésuites de San Salvador est un autre exemple de la répression qui s'est abattue sur ce mouvement. En 1989, 6 prêtres jésuites sont exécutés dans l'enceinte de l'université centra-américaine à San Salvador. Un petit musée en leur mémoire a été construit dans l'université catholique. Le documentaire de François-Xavier Drouet, L'Évangile de la Révolution, nous plonge au cœur des luttes et des actions communautaires inspirées par les acteurs de la théologie de la libération du siècle dernier.
Et toi Sylvie, quelle serait ta figure préférée de la théologie de la libération ?
Eh bien, sans aucun doute, le prêtre guerriero Camilo Torres, dont les restes ont d'ailleurs été identifiés récemment, 60 ans après sa mort. Ce prêtre colombien avait choisi de rejoindre en 1965 les rangs de l'armée de libération nationale, une guérilla rurale qui s'inspire du modèle révolutionnaire cubain et revendique la redistribution des terres des paysans. Pour Camilo Torres, les voies légales ont été épuisées. Seule la lutte armée est viable. Il perdra la vie quelques mois plus tard, lors de son premier combat. Comme quoi l'Église ne forme pas de bons révolutionnaires.
Et que reste-t-il de ce courant de pensée de nos jours ?
La lutte pour la justice sociale a ébranlé l'autorité de Rome. En pleine période de guerre froide, la théologie de la libération est accusée d'être contaminée par des influences marxistes. La peur d'une contagion communiste de l'Église fait trembler le Vatican. Pour contrer son influence, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI nommèrent dans la région des évêques conservateurs, contribuant au déclin de ce courant de pensée. Désormais, les pauvres et les exclus représentent la première clientèle des églises pentecôtistes. Mais la théologie de la libération n'a pas complètement disparu. Elle se reconfigure et se déploie autour de nouvelles causes comme l'écologie ou la défense des minorités indigènes et afrodescendantes. En ce sens, Leonardo Boff, père fondateur de la théologie de la libération, est condamné au silence par le Vatican pour avoir critiqué la centralisation du pouvoir dans l'Église. Il orientera par la suite sa théologie vers l'écologie. Sa réflexion a profondément influencé l'encyclique Laudato Si du pape François, consacrée aux questions environnementales et sociales.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Merci Sylvie pour ce décryptage. On fait une courte pause musicale avec Selena et Reutilo et leur titre Que Viva Chango, un classique de la musique cubaine afro-religieuse.
Chango, que viva Chango, Señor.
pour finir cette émission, on laisse la parole à Anaëlle qui va nous parler des religions néo-indiennes.
Durant l'automne 2024, je pars pendant 2 mois au Mexique pour découvrir les sites préhispaniques que j'avais étudiés à l'université. Dès mon arrivée à Mexico, aux abords du Musée national d'anthropologie, j'assiste à la Danza de los Voladores, la danse des hommes volants, au cours de laquelle, au son de la flûte et du tambour, 4 hommes escaladent un grand poteau, puis se lancent dans le vide et tournoient dans les airs, la tête en bas, suspendus par des cordes durant de longues minutes. Ce rituel spectaculaire, je le reverrai ensuite dans des contextes variés, aussi bien près de temples d'origine préhispanique qu'entre un spot de plongée et un McDonald's sur une plage du Yucatan. J'ai très vite compris que cette pratique, qui s'inscrit dans un héritage culturel et spirituel pluriséculaire, participait aussi, et principalement, d'une économie touristique. Ce fut assez clair lorsque les protagonistes du rituel, des hommes volants très terre-à-terre finalement, ont demandé une contribution financière aux spectateurs et spectatrices de leurs envolées. Au fil de mes déplacements, j'ai pris la mesure de l'importance des imaginaires associés aux civilisations précoloniales comme ressources largement mobilisées par les Mexicains, qu'ils descendent ou non de peuples indigènes. Et tout s'est éclairé quelques années plus tard lorsque je suis tombée sur l'ouvrage intitulé « Les Néo-Indiens, une religion du 3e millénaire », ouvrage écrit par 2 anthropologues, Jacques Galinier et Antoinette Molinier, spécialistes respectivement du Mexique et des Andes. Dans un entretien que j'ai trouvé en ligne, Jacques Galinier raconte en ces termes la genèse du livre.
En fait, au Mexique, au début des années 1990, l'explosion de phénomènes culturels à coloration New Age, tant au cœur même de la ville de Mexico sur le Zocalo que sur les grands sites cérémoniels que sont Teotihuacan et Chichen Itza, a fait surgir la difficulté suivante. Comment rendre compte de ces nouveaux systèmes de pensée qui puisent consciemment et délibérément dans les traditions des sociétés préhispaniques, s'en revendiquent et établissent des filiations imaginaires pour ressusciter un passé en partie enfoui sous les décombres de la conquête.
On le voit, le mouvement que Galinier et Molinier désignent sous le terme de néo-indianisme se distingue des cultures indigènes telles qu'elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui dans tout le continent américain. Ces communautés autochtones se sont adaptées aux évolutions historiques, combinant héritages précoloniaux et apports issus de la colonisation occidentale et de la mondialisation, donnant lieu à des formes culturelles et spirituelles plus ou moins hybrides. Mais les anthropologues distinguent ces processus évolutifs d'un autre phénomène, celui d'une autochtonie fantasmée par les néo-indiens. Un phénomène auquel ils ont donc décidé de consacrer une enquête comparative centrée sur ces manifestations à Mexico et à Cusco. Et cette « religion du 3e millénaire », pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage, elle se caractérise avant tout par une profusion de rituels, comme le montre ce passage.
C'est dans la fête que les néo-indiens expriment toute leur créativité. Danseurs emplumés sur le Zocalo de Mexico, mystiques en pèlerinage à Teotihuacan, grands prêtres invoquant la divinité solaire à Sacsayhuaman, chaman d'initiation récente sacrifiant un lama à l'université de Cusco. Ces rites peuvent être discrets et même intimes, comme en témoignent certaines offrandes aux dieux organisées dans les banques de Cusco ou la lecture dans les feuilles de coca proposées aux touristes dans leurs hôtels. Mais il donne lieu à des représentations grandioses, telles le culte solaire néo-inca, et rassemble des foules aux motivations disparates. Les grands rituels des villes de Mexico et de Cusco s'imposent tout d'abord par ce caractère spectaculaire, l'adhésion qu'ils suscitent et une effervescence sans limite.
Selon les anthropologues, la deuxième caractéristique de ce courant est son caractère hétérogène et infiniment souple et mouvant.
Le mouvement néo-indien peut se définir comme une communauté d'acteurs aux limites floues. Pas de cohésion interne, de clivage marqué entre une élite de penseurs et de sacrifiants et une masse de fidèles, mais un dogme, plutôt élastique, ouvert sur d'autres courants spirituels qui n'hésitent pas à piocher dans les textes historiques et anthropologiques, quitte à en faire à l'occasion de surréalistes patchwork.
En fin de compte, ce système de croyances est capable d'intégrer des influences variées, quitte à produire des assemblages éclectiques. On remarque dès lors une tension entre la recherche d'un retour aux sources autochtones et cette réinterprétation assez libre d'éléments variés. Par ailleurs, le mouvement du néo-indianisme s'inscrit dans un contexte politique particulier, propre à des nations profondément métisses et marqué par un racisme pluriséculaire envers les personnes indigènes. Dépassant largement la simple réactivation spirituelle ou folklorique, Cet intérêt pour les rites précoloniaux a été le vecteur d'enjeux idéologiques importants. Plusieurs exemples en témoignent. Le 12 octobre 1992, date des 500 ans de l'arrivée des Européens en Amérique, de nombreux représentants de peuples autochtones du Mexique, mais aussi des Inuits d'Alaska ou encore des Mapuches du Chili, se sont rassemblés sur le Zócalo, la place centrale de Mexico, où s'est tenue une grande célébration. Il s'agissait de commémorer, à l'échelle panaméricaine, 5 siècles de résistance à la domination coloniale, à l'impérialisme et au génocide. À l'échelle nationale, cette fois, il y a eu de nombreux cas où des rites spirituels néo-indiens ont également été mobilisés pour légitimer une investiture politique. En 2001, le président du Pérou, Alejandro Toledo, issu d'une famille de paysans quechua, s'est fait introniser en Inca au Machu Picchu par des chamans qui ont présenté des offrandes aux dieux des montagnes. Il lui sera reproché, entre autres, de faire de ses origines un marketing politique sans que cela se traduise par des politiques de rupture. Quelques années plus tard, c'est Evo Morales, issu d'une modeste famille Aymara et président de la Bolivie de 2006 à 2019, qui s'est fait introniser dans le temple de Tiahuanaco, vêtu d'un habit Aymara. Son élection en 2005 a d'ailleurs été perçue comme une forme de résurrection d'une indianité longtemps dominée. Cette quête d'autochtonie et ses références au passé précolonial, très puissantes au début des années 2000, relevaient alors d'une dynamique en développement depuis déjà plusieurs décennies dans le cadre du mouvement indigéniste. Mais pour en revenir à la dimension spirituelle, existe-t-il un lien réel entre les systèmes de croyance du néo-indianisme et les cosmovisions des peuples précoloniaux ? Sur un ton un peu provocateur, Galinier et Molinier suggèrent d'abord que non, dans le chapitre qu'ils consacrent entièrement aux récupérations commerciales et touristiques du néo-indianisme.
Le néo-indien qui a pris forme en Amérique est plus proche de notre culture télévisuelle et de Disneyland. Il s'habille en prince aztèque ou en inca les jours de fête. Le néo-indien ne danse plus pour la pluie mais pour les touristes. Il pille les écrits des ethnologues pour découvrir ses rituels. Un phénomène déconcertant mélangeant tour opérateur, nouvelle spiritualité, ethnologie et altermondialisme.
Certaines instrumentalisations purement commerciales de la spiritualité indigène illustrent le fait qu'aujourd'hui le patrimoine autochtone est perçu en Amérique latine comme un capital symbolique de valeur. Cela donne lieu à un révisionnisme parfois extrême, qui vise à mettre en adéquation ces rites avec nos sensibilités contemporaines. Je pense notamment au cas de la négation des sacrifices humains qui étaient opérés par de très nombreux peuples précoloniaux, pour nourrir la terre-mère et rendre hommage aux divinités. Par ailleurs, les anthropologues analysent dans un autre chapitre les rapports entre néo-indianité et thèse New Age, ce courant spirituel qui, dans la continuité du mouvement hippie, promeut le développement personnel, l'harmonie avec la nature, et des pratiques comme la méditation, l'ésotérisme ou encore l'astrologie.
C'est là l'un des paradoxes des néo-indianités en gestation. Elles puisent leur sève dans des traditions très circonscrites géographiquement, mais elles sont en même temps branchées sur les idées mondialisées de cette galaxie de néo-traditions qui, des pays celtes au Népal, déclinent des spécificités ethniques sur fond de culture globale.
C'est donc dans un contexte de melting pot que les participants à cette forme de tourisme mystique prennent part à des célébrations cosmiques dans différents sites archéologiques ou naturels du continent. Cependant, par un retournement que je trouve passionnant, Jacques Galinier raconte dans l'entretien qu'il donne quelques années après la publication de son ouvrage en 2006 que les sociétés indigènes et les néo-indiens ne constituent pas deux mondes séparés sans aucune interaction, comme lui et Antoinette Molinier en avaient fait l'hypothèse au début de leur enquête.
Au cours des dernières années, ont émergé dans des villages indiens des courants de revendication ethnique qui utilisent les nouveaux symboles véhiculés par les New Agers, inspirés de ces modes néo-indiennes et qui s'inscrivent dans la durée. C'est un phénomène de mimétisme que nous n'avions pas du tout anticipé. Par l'impact du tourisme mystique, on peut supposer qu'est en train de se construire une nouvelle forme d'indianité calquée sur les modèles et les stéréotypes de l'Occident et qui viendrait, par percolation, s'inscrire dans la trame de la culture indigène actuelle.
Ainsi, plus ou moins prise par les dynamiques de la mondialisation, certaines communautés indigènes perçoivent la forte valeur désormais accordée à leurs propres traditions et symboles, susceptibles d'être exploitées économiquement. Qu'on pense à l'artisanat, aux visites organisées de villages, ou encore au rituel des voladores, qui remonte à l'horizon toltèque et est encore pratiquée, d'une part pour les touristes, un peu partout au Mexique, mais aussi au sein des communautés de la Huasteca, notamment les Nahua et les Otomi, chez qui ce rituel a encore un sens spirituel, les danseurs représentant soit des aigles, soit des diables.
Merci Anaël et merci chers auditeurs et chères auditrices pour votre écoute. C'était Paloma et Anaël à la présentation, accompagnées de toute l'équipe de Semillas Latinas et de notre invitée du jour, Ana Carla Rocha da Oliveira.
Et du 14 avril au 5 mai à Paris, ne ratez pas le cycle de cinéma Marta Rodriguez de Haute Lutte. La cinémathèque du documentaire par la BPI rend hommage à la pionnière du cinéma colombien, Marta Rodriguez, et à son engagement pour les plus pauvres ainsi que pour les peuples autochtones de Colombie. Cette belle rétrospective sera aussi ponctuée d'une masterclass et de discussions en présence de nombreux spécialistes.
Quant à nous, on se retrouve le 23 avril à la Gaîté Lyrique pour une émission spéciale sur les migrations avec l'équipe de Semillas Latinas.
D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, Semillas Latinas Radio, pour une veille continue de l'actualité du continent, des décryptages et des recommandations culturelles.
Excellente soirée sur Radio Campus Paris.